Vous écoutez RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel.
Le journal
en français facile.
Margot Ratézic.
À la une de votre journal en français facile, Donald Trump campe, reste sur ses positions. Le président américain dit qu'il ne changera jamais de politique, alors que les pays touchés par les droits de douane organisent leur riposte, leur réponse. Vous entendrez l'inquiétude en Haïti, où l'on craint que ces taxes ne s'appliquent au secteur du textile. Nous irons aussi au Mali, où les soutiens de l'imam Diko, un opposant, ont été condamnés à de la prison. Et enfin de la musique, avec la sortie du nouvel album de la star sénégalaise Youssou N'Dour. Donald Trump campe, reste sur ses positions. Le président américain affirme qu'il ne changera jamais de politique, et ce malgré la déroute boursière qui s'abat sur les États-Unis, autrement dit le grand désordre. Du côté des pays touchés par les droits de douane, la riposte, la contre-attaque s'organise. Une organisation a même attaqué en justice les taxes imposées à la Chine. En réponse à Donald Trump, Pékin a imposé 34% de droits de douane sur les produits américains. Et Bruxelles, de son côté, planche, travaille encore sur sa stratégie. Parmi tous les territoires concernés, Agnieszka Kumor, il y a donc ceux qui montrent les muscles, qui durcissent le ton, et ceux qui préfèrent négocier.
Après Pékin, c'est au tour d'Ottawa de dégainer en retour et de taxer certaines voitures américaines. Si le Canada n'a pas subi de nouveaux droits de douane, le pays paye tout de même un lourd tribut dans cette guerre commerciale avec des surtaxes qui touchent une partie de ses exportations. Quant à l'Union européenne, Bruxelles menace de s'attaquer aux services numériques américains tout en se disant prête à négocier. L'argument des Européens, un marché intérieur riche de 450 millions de consommateurs. La réponse de l'Europe sera unie, forte et appropriée, assure le chancelier allemand sortant Olaf Scholz. La première salve, mi-avril, sera sur l'acier et l'aluminium déjà surtaxés aux États-Unis. La deuxième, plus massive, interviendra deux semaines plus tard. Mais jusque-là, les entreprises françaises sont priées par le président Emmanuel Macron de s'abstenir d'investir outre-Atlantique. Le Japon, quant à lui, veut garder la tête froide. Le premier ministre nippon se dit prêt à prendre l'avion pour aller à Washington pour négocier en personne.
Agnieszka Kumor. La bourse de New York a de nouveau ouvert en nette baisse ce vendredi. Les spécialistes s'inquiètent des représailles chinoises aux droits de douane. Haïti, également touché par ses tarifs douaniers, les exportations du pays vers les États-Unis seront taxées à 10%. Mais si cela s'applique au secteur de la sous-traitance textile, eh bien les conséquences pourraient être dramatiques. Cette filière était jusqu'ici protégée par deux lois américaines. Je vous propose d'écouter l'économiste haïtien Enomi Germain, joint par Juliette Chénion.
Ce secteur concerne 90% des exportations totales du pays. Et deuxièmement, c'est un secteur qui emploie aujourd'hui plus de 30 000 personnes. Donc, si les 10% concernent ce secteur, ce sera une catastrophe en Haïti pour ce secteur, mais également le secteur agricole et la petite industrie qui seront totalement négativement impactées. On n'est pas suffisamment compétitif et ça empêche de produire et d'avoir la capacité d'exporter, si vous voulez, de façon normale vers le reste du monde, et en particulier vers les États-Unis d'Amérique, qui constituent le premier partenaire économique de ce pays en difficulté.
C'était l'économiste haïtien Enomi Germain. Le chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure en Israël, écrit que Benjamin Netanyahou lui a demandé d'influer, d'agir sur les juges pour retarder son procès. La procureure générale du pays a quant à elle conclu à un vice fondamental, une faute grave du premier ministre dans le renvoi du chef du Shin Bet. Il menait des enquêtes criminelles sur les proches de Benjamin Netanyahou. Au moins 30 morts dans la bande de Gaza ce vendredi. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre. Benjamin Netanyahou a promis d'accentuer la pression sur le Hamas pour obtenir la libération des otages. D'autres frappes israéliennes ont été menées au Liban et en Syrie. Frappes qui ont tué deux membres de la branche armée du Hamas dans le sud du Liban. Un cessez-le-feu est pourtant en vigueur dans le pays depuis 4 mois.
Le journal en français facile.
Au Mali, 9 soutiens de l'imam Mahmoud Diko ont été condamnés à 1 an de prison pour attroupement illégal. Condamnation qui intervient après une autre peine à l'encontre de l'opposant malien Sédina Touré. L'imam Diko apparaît comme un important opposant aux autorités de transition. Les précisions de David Baché.
Les 9 hommes voulaient accueillir l'imam Diko le 14 février dernier, journée prévue pour son retour d'exil à Bamako. Ce retour n'a finalement pas eu lieu, mais les 9 militants qui étaient sortis de chez eux ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour attroupement illégal. 1 an ferme, c'est plus que les réquisitions du parquet qui avait demandé la relaxe pour certains des militants et de la prison avec sursis pour les autres. Leurs proches, qui s'attendaient donc à une libération, même en cas de condamnation, après déjà 1 mois et demi de détention, ne cachent pas leur déception. « Je suis dépité, très triste et déçu », confie l'un d'entre eux. « C'est purement politique », déplore un autre. « Mais nous allons faire appel », demander un nouveau jugement. L'influent imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, en exil depuis près 1 an et demi en Algérie, est devenu une bête noire, un ennemi des dirigeants militaires maliens, après avoir exprimé des critiques et dénoncé notamment une transition sans trajectoire, qui ne sait pas où elle va. La CEMAS, organisation qui rassemble ses soutiens, a été dissoute, interdite, il y a 1 an, et plusieurs de ses membres ont été enlevés, séquestrés, emprisonnés par la sécurité d'État ou condamnés en justice.
David Baché. On reste en Afrique avec ce lourd bilan. Dans le centre du Nigeria, au moins 40 personnes ont été tuées dans une série d'attaques contre des villages. Parmi les victimes, essentiellement des femmes et des enfants, la région est marquée par des affrontements récurrents, répétés entre les différentes ethnies et religions. Vous le savez, RFI met régulièrement l'accent sur les musiques du monde. Aujourd'hui, Youssou N'Dour, la star sénégalaise, revient avec un 24e album studio, un album intitulé « Éclairer le monde » qui revisite le mbalax, ce rythme musical typique du Sénégal. Les précisions d'Olivier Roger.
Né au début des années 70, sur le socle de la musique njoup des Sérères, le mbalax a toujours su intérioriser les influences étrangères. Youssou N'Dour utilise à merveille cette plasticité sur son nouvel album, dont la tonalité doit beaucoup à l'américain Michael League, producteur, arrangeur, guitariste, bassiste et même joueur de ukulélé. Éclairer le monde est un album très musical. Youssou N'Dour s'amuse à y mêler guitare, balafon, goni, kora, au rythme des tamas et des sabars, les deux percussions métronomes qui forment la base du mbalax. Toujours curieux, Youssou N'Dour a aussi ouvert sa porte à des musiciens venus d'horizons divers, comme le batteur Mounir Zaki d'Atlanta ou le pianiste new-yorkais Frank Locrasto. Ils accompagnent les partenaires habituels du Dakarois, comme son guitariste Tafa Gaï, au jeu toujours très subtil. Éclairer le monde est une ode à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, à l'universalisme. C'est aussi souvent, comme avec Youssou N'Dour, une occasion de célébrer le mouridisme et son guide spirituel, cher Ahmed Bamba.
Votre journal en français facile à réécouter à tout moment sur françaisfacile.rfi.fr.